Soyez les bienvenus sur Radio Écho des Choucas. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Écho des Choucas, votre radio dans la Vienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Jardres-Chauvigny, votre spécialiste culture en pays chauvinois.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Écho des Choucas, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle émission inédite de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. Soyez les bienvenus et merci de passer eh bien, ce lundi de Pentecôte en notre compagnie avec eh bien, un programme alléchant aujourd'hui puisque nous allons avoir la chance eh bien, de parler du tout nouvel album d'Ali G qui est sorti vendredi dernier dans les bacs avec Elisa d'Ali G qui sera en ligne avec nous dans quelques instants. Nous aurons le plaisir également eh bien, de repasser une interview avec l'équipe du film Les Éblouis, Sarah Souko et Céleste Brunkel en fin d'émission. Ce sera une rediffusion, de cette Pentecôte pour fêter ensemble la sortie VOD et DVD du film, magnifique film, Les Éblouis. Nous allons avoir aussi le plaisir de dérouler nos coups de cœur télé avec le grand retour, oui, le grand retour d'Un si grand soleil ce soir à 20h40 sur France 2 avec Fred Bianconi qui joue le rôle de Virgile, qu'on a vécu des vertes et des pas mûres ces derniers mois. Eh bien, on va reparler évidemment et puis en même temps, eh bien, vous donner un petit retour en arrière hein, pour que vous puissiez repiquer ce soir l'épisode de la soirée. Et puis Féminicide également, c'est le documentaire choc qui vous sera proposé demain soir sur France 2 avec 5 portraits de femmes qui ont été tuées par leur mari. Des drames en France, plus de 150 femmes ont été tuées l'année dernière en 2019 en France sous les coups de leur mari. Nous en parlerons avec Lorraine de Fouché, la réalisatrice de ce très beau documentaire et de la soirée Féminicide qui vous attend demain soir sur France 2. Mais tout de suite, eh bien, on déroule les audiences de la semaine dernière comme d'habitude pour commencer juste après, on parle de musique avec les LIG.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de la semaine dernière, on retrouve bien sûr le film Bis, lundi dernier en tête des audiences avec 3 903 000 téléspectateurs et 16,6% de part de marché. Red arrive deuxième, hein, au coude à coude sur M6 avec 3 512 000 téléspectateurs et 15% du public. Petit score pour Secret d'Histoire avec 9,6% de part de marché et 2 322 000 téléspectateurs. Et puis mardi, il y avait Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, 27% de part de marché et 6 219 000 téléspectateurs. Tandem, toujours très fort sur France 3 avec 19,4% de part de marché et 5 100 000 téléspectateurs et un score décevant pour le rendez-vous en terre inconnue avec Nawel Madani, seulement 2 673 000 téléspectateurs, c'est le plus petit score d'audience pour l'émission Rendez-vous en terre inconnue et c'est bien dommage. Les femmes du 6ème étage sur M6 ont cumulé un petit score également avec 1 442 000 téléspectateurs seulement et 5,8% de part de marché. Mercredi, The Resident sur TF1, 17,2% de part de marché, 4 061 000 téléspectateurs, toujours autant de fans pour Top Chef, avec 3 655 000 téléspectateurs et 7,6% de part de marché, quasiment 3 millions de téléspectateurs pour la rediffusion du téléfilm Parole contre Parole, là encore, un très beau score. Et puis sans surprise, jeudi, c'est les Bronzés qui arrivent en tête des audiences, évidemment, sur TF1, et TF1 toujours en tête également vendredi avec Koh-Lanta. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
L'album de la semaine.
Et c'est un album coup de cœur dans Chute, on écoute la télé qu'on vous propose aujourd'hui. Il vient de sortir depuis vendredi dernier, il est tout frais. Et bien là, il est là, il s'appelle Pas peur. Et c'est le nouvel opus des L.I.J. Et ça tombe bien puisqu'on a une des L.I.J. avec nous en ligne, c'est Elisa. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Elisa. Tu sais qu'on vous suit depuis vos débuts. On est là pour vous soutenir. Vous étiez au Francofolie de La Rochelle en juillet l'année dernière et vous m'aviez parlé effectivement de la sortie de cet album. Et voilà, il est là, ça y est, il est dans le commerce, il est accessible à tous. Alors qu'est-ce que ça fait, Elisa ?
Alors déjà, c'est un grand soulagement. C'est le deuxième de composition, mais c'est quand même flippant parce qu'en effet, il y avait en attendant l'album et ensuite il y a eu Poupée Russe, je pense que le stress était à son comble parce que c'était les premières compositions. Là, on est plus détendu. Mais je dois vous avouer qu'avec toute cette histoire de confinement qui a retardé la sortie d'un mois, plus de deux mois, on était pas mal angoissés. Là, on commence à se détendre un petit peu.
Alors, comment se sentent justement, parce que tu vas être la porte-parole, évidemment, des trois hein, aujourd'hui. Alors, comment se sentent Lucie et Juliette?
Je crois qu'on est un peu dans le même mood. En vrai, je crois qu'on est un peu dans le même monde. On est très contente que les gens puissent se l'approprier, enfin, en fait. C'est surtout ça dont on avait envie que les gens puissent écouter l'album et puissent se l'approprier, puissent nous faire leur retour, nous dire leur ressenti. Pour l'instant, ça se passe bien, on verra la suite.
Alors Elisa, moi je me souviens de l'année dernière, puisque j'y étais au Francophonie de La Rochelle, c'était dinguissime, c'est une première pour vous, la grande scène, carrément, direct. Ça fait quoi de se produire devant 12 000 personnes comme ça, sur une scène mythique comme celle des Francopholies?
Bah ouais, c'est surtout ça en fait, c'est le fait que c'était les Franco, puisqu'on a fait beaucoup de festivals et on a eu la chance de jouer devant beaucoup de personnes. Et je vous avoue que les Franco, ça faisait 3-4 ans qu'on les attendait, on en rêvait vraiment, on en rêvait. Moi je crois que déjà 2 jours avant, j'y étais déjà dans ma tête quoi, donc fallait pas me sortir de mon truc. C'était absolument incroyable, on avait l'impression de faire une teuf avec 10 000 bottes en fait. C'était absolument génial, en plus la soirée était géniale, on était à la veille pour profiter du concert. Enfin, on ne s'attendait pas du tout à ce que les gens soient aussi réceptifs en fait. C'est vraiment incroyable. On y retourne alors quand ils veulent, il n'y a pas de soucis.
Écoute, en tout cas, tu es celle certainement qui déploie une énergie sur scène incroyable. Tu sautes partout, t'es une vraie puce sur scène toi.
Oui, un peu. Un petit peu, mais du coup je crois que c'est pour ça que bon, Juliette elle est un peu pensée derrière son violoncelle la majorité du temps, donc c'est normal. Et Lucie, elle sait que si elle était aussi folle que moi sur scène, ça serait un peu trop de folie. Du coup, ouais, moi, j'ai un peu de mal à me contenir sur scène. C'est en fait quand je monte sur scène, c'est un peu comme si j'allais dans une guerre d'amour, quoi. Faut aller convaincre les gens, faut aller les chercher, parce qu'il y en a beaucoup qui en festival, surtout qui sont pas forcément là pour te voir toi, qui sont là pour voir les autres groupes, ceux d'avant, ceux d'après. Donc, faut réussir à les choper, et surtout faut réussir à les garder. Et vraiment faire de la scène, je parle pour toutes les trois, c'est de très loin notre passion. On préfère largement faire de la scène que faire du studio. Le studio, ça nous stresse un peu, alors que sur scène, on est vraiment à la maison, puis on est entre nous, quoi. Mais oui, c'est vrai que sur scène, je suis un peu folle.
Bon, si vous avez l'occasion, en tout cas, de voir les L.I.J. qui passeront par chez vous en 2021 ou peut-être fin 2020, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez passer un super moment avec notre groupe de trois filles qu'on aime tant dans Chute, on écoute la télé. Alors, Elisa, comment s'est passée justement la composition, la construction de ce nouvel opus, de ce nouvel album, Pas peur?
Finalement, il a suivi de près la création de Poupée Russe. On n'était pas encore sorti de notre mood de composition, on s'est dit autant continuer. Et par contre, on l'a construit de façon différente. Poupée Russe, on était vraiment que toutes les trois, et enfin tous les quatre en fait, avec notre manager qui était auteur sur Poupée Russe avec nous. Et là, on a fait ça différemment. On est parti d'abord en résidence avec notre producteur et une autre équipe devant, là où on a commencé à travailler avec Youssoufa, qui est sur l'album, avec Kemler, qui est sur l'album aussi. Et du coup, on a eu une team un peu plus grande en fait pour cet album, parce qu'on avait envie de gens différents, voilà, de changer de méthode, de voir ce que ça donnait. Et au final, c'est vrai que ça allait très vite. On a eu une première résidence, puis une deuxième. On a finalisé l'album, en octobre dernier. Et après, c'est de l'attente, donc c'est très long. C'est de l'attente, faut choisir les premiers singles, etc. C'est très long. Mais même quand on était en Francophonie, le lendemain, on était en studio, en train d'enregistrer. Enfin, voilà, on a alterné entre festival, enregistrement, festival, composition, festival, enregistrement. On était dans une dynamique assez grosse, et du coup, on n'a pas voulu la perdre. Donc ça s'est passé comme ça, mais au final la team qu'on a rencontrée dès les premiers jours de résidence est restée la team qui a fait cet album avec nous. C'est devenu un peu un album fait en famille, donc c'était hyper cool. Et surtout on s'est mis beaucoup moins de pression que pour Poupée Russe. Poupée Russe, il y avait encore le syndrome de l'imposteur est encore là, mais il est moins. Sur Poupée Russe, il était très présent parce que c'est difficile de se faire un succès avec des reprises, surtout quand c'est pas forcément ce qu'on cherche à la base, et surtout quand on s'y attend pas du tout. On a toujours voulu composer, et il se trouve que le succès est arrivé avec des reprises, donc c'est facile d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur. Donc Poupée Russe, on s'est mis beaucoup de règles, surtout qui viennent du milieu classique dans lequel on a évolué pendant plus de 15 ans. Il y avait beaucoup de règles, on s'est mis beaucoup de contraintes. Là, on a vraiment lâché prise en fait. On a vraiment dit ce qu'on voulait dire sans faire de détours, sans décorer les textes. Musicalement, on s'est pas posé de questions, on s'est pas dit on va écrire dans tel genre ou dans tel genre. On a vraiment fait ce qu'on avait envie de faire. Bon, on est plutôt contents du résultat.
Bon, pas peur, c'est quoi l'histoire du titre? Raconte-nous celui-là, qu'on va écouter là.
Alors l'histoire du titre en soi de la chanson, déjà c'est le titre qui symbolise vraiment l'ADN propre du groupe qu'on est, de L.I.J., c'est-à-dire un violoncelle et des voix. C'est L.I.J. dans sa forme la plus à poil en fait. C'est ce par quoi on a commencé, et du coup c'était logique pour nous de terminer l'album de cette façon-là. Et surtout c'est une chanson, alors nous on se parle les unes aux autres, mais en vrai c'est une chanson qui parle de la peur que je pense tout le monde a, de se rendre compte que quelqu'un qui nous est absolument indispensable peut totalement vivre sans nous. Je pense que c'est une peur de la solitude, de l'abandon et de voir quelqu'un qu'on aime se passer de nous. Je pense que c'est une peur qui est commune à la majorité de l'humanité. Et en fait, on cite toutes les peurs qu'on a, et pour se rendre compte qu'au final, ces peurs, elles représentent absolument rien par rapport à la peur qu'on a de vivre les unes sans les autres et de se perdre. Et C'est une chanson en plus qui, voilà, qui parle non seulement de notre histoire à toutes les trois, enfin de ce qu'on ressent les unes pour les autres, mais aussi qui parle tout simplement de relation, en fait, de ce qu'on peut ressentir quand une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou familiale, quand une relation se termine. Et du coup, c'était logique en plus d'appeler l'album de cette façon-là, parce que c'est le titre qui représente le noyau, comme je vous ai dit. Et pas peur, parce qu'on a peur, tout simplement. C'est une forme de méthode cool ou catharsis d'appeler son album comme ça. C'est un peu ce qu'on se répète tout le temps quand on file, justement, ok, on n'a pas peur, on y va. Mais on était mort de trouille, donc on a appelé pas peur. Et ce titre, c'est un peu nos plus grandes peurs, complètement minimisées face à la peur qu'on a de se perdre et par rapport à la peur qu'on a tout simplement de perdre quelqu'un, en fait.
On l'écoute maintenant, Elisa. Pas peur, c'est également le titre de l'album d'Ali J qui vient de sortir dans les bacs. On l'écoute.
J'ai pas peur de l'orage, pas peur des fantômes et des monstres. Pas peur d'une rage de temps, j'ai pas peur de la fin du monde. J'ai pas peur des bombes, de la peine maximale. J'ai pas peur du jugement des autres, du temps qui fait si mal. J'ai pas peur des silences, des tremblements de terre. J'ai pas peur de l'absence, j'ai pas peur de mon père. Même pas peur de l'enfer, pas peur de l'oubli. Pas peur de rester jusqu'au dessert dans les repas de famille. Pas peur d'être indécis, pas peur d'être imbécile. Pas peur d'un tatouage raté, pas peur de la calvitie. Pas peur de la maladie, plus peur de mes premières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi. Pas peur de vieillir, de voir les enfants partir. Pas peur de la fin de l'été, j'ai pas peur de mentir. J'ai pas peur de l'obscurité, de pleurer sur une chanson. J'ai même pas peur de tout quitter, j'ai même pas peur de l'avion. Moi j'ai pas peur de trahir, d'abandonner des combats. Moi j'ai pas peur d'un clown triste ou d'une armée de soldats. J'ai pas peur de la bagarre, de passer pour un sauvage. Moi j'ai pas peur, même pas peur de manquer de courage. J'ai pas peur de l'échec, passer sous une échelle. Pas peur des araignées, pas peur de perdre un être cher. J'ai même pas peur du vide, plus peur des dernières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi.
Voilà, pas peur, donc c'est le premier extrait de l'album d'Ali J qu'on écoute aujourd'hui, nouvel album qui est sorti vendredi dans les bacs. On est avec Elisa en ligne avec nous. Alors on va parler dans un instant, Elisa, avec toi de la façon dont vous êtes rencontrés. Toutes les trois, on va essayer d'aller cueillir ceux qui ne connaissent pas les Ali J et on va essayer de vous convertir, voilà, à la musique d'Ali J. Tu es prête, Elisa ?
Je suis prête.
Eh ben allez, on revient tout de suite dans un instant dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Vous êtes sur Radio Écho des Choucas. 103.7.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinvé. Bienvenue à bord.
Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'irai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'irai ma meilleure vie.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. L'album de la semaine.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé. C'est une ambiance musicale aujourd'hui avec le nouvel album de L.I.J. qui vient de sortir dans les bacs intitulé Pas peur, il vous le faut cet album. On est avec Elisa, justement du groupe L.I.J. Alors Elisa, pour ceux qui ne connaissent pas les L.I.J., est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés toutes les trois?
Oui, on s'est rencontrés à la crèche. Voilà, tout simplement. Donc on fait partie de la vie des unes des autres depuis bientôt 27 ans maintenant. Voilà, j'ai rencontré Juliette, enfin Juliette et moi on s'est rencontrés quand on avait 8 mois et on a rencontré Lucie 3 ans plus tard quand on avait 3 ou 4 ans. Et on s'est pas trop lâché depuis. Donc nos parents sont devenus meilleurs potes et parce que nous on était déjà meilleurs potes, ils n'ont pas eu trop le choix. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié avant tout et surtout à ce stade-là, vu tout ce qu'on a vécu ensemble, on a plus une relation de sœur qu'une relation d'amitié, c'est sûr.
Oui, ça je l'imagine bien, mais justement quand il y a une relation comme ça, est-ce que par moment, est-ce qu'il y en a une qui sont plus préposées à certaines tâches que d'autres? Est-ce qu'il y en a une qui est plus à vérifier les compositions, l'autre qui écrit? Comment vous répartissez les tâches un peu au sein du groupe, toutes les trois?
Alors en vrai, ça se fait très naturellement. Je pense que chacune, à certains moments, on a notre rôle de petit chef, c'est jamais la même. Il n'y a pas de leader chez nous parce qu'on a chacune notre place à différents moments. Donc il n'y a pas forcément de méthode. Après, c'est vrai que souvent, pour finaliser vraiment une composition et mettre le point final à la validation de la chanson, souvent c'est Juliette. Souvent on arrive avec Lucie en disant « Bon, ok, Juliette, je pense que là, le son il est fini, on a tout mis, t'as fait tes violoncelles, qu'est-ce que t'en penses ?» Et si elle valide, c'est bon, le son, il peut partir. Si elle valide pas, on retravaille. Bon, après, on fait ça pour toutes les chansons, mais c'est vrai que souvent, c'est Juliette qui a le point final. Moi, ça va être plus au niveau des concerts, des lives. Quand on sait qu'on va faire des concerts, elle me laisse 2-3 semaines toute seule, je fais ma tambouille avec mes logiciels et je refais des arrangements et ensuite je leur présente tout et ensuite on retravaille toutes les trois. Et Lucie, j'ai l'impression qu'elle fait un peu le ciment et la glue entre tout ça en fait. Elle, c'est vraiment celle qui va parler avec ses tripes tout de suite. Moi, je suis très cérébrale. Juliette est très émotive, mais elle a quand même ce côté hyper pragmatique. Lucie, elle est très dans le ressenti. Donc, par exemple, si le thème d'une chanson ne lui parle pas tout de suite, on va savoir que du coup c'est peut-être pas une bonne piste et qu'il faut qu'on change. Musicalement pareil, s'il y a des éléments qu'elle comprend pas tout de suite ou qui lui font pas écho, pareil, on va se dire que du coup c'est peut-être pas le bon élément à mettre à cet endroit-là. Après, par contre, pour ce qui est de... Et puis, lui, c'est très, 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 très vrai dans le social. Évidemment, on est un peu timide. Je parle beaucoup, du coup, ça s'entend pas forcément. Mais évidemment, on est un peu timide. Et Lucie, elle a vraiment ce rôle-là d'être très à l'aise en société et de pouvoir parler pour nous quand nous, on n'y arrive pas forcément. Après, voilà, sur le reste, c'est vraiment... On s'échange les rôles tout le temps, en fait. Il n'y a pas de leader. C'est un peu un puzzle qui est tout le temps en train de bouger, un peu comme un triptyque qui va se déplacer tout le temps, quoi.
Avant même les instruments, les chansons, c'est avant tout vos voix. À toutes les trois, vous nous l'avez prouvé en faisant des mash-ups quasiment tous les étés. On a eu des compositions. Il y a eu un summer 2019, un summer 2018. Est-ce qu'on aura un summer 2020?
Alors, normalement, oui. C'est un peu un rendez-vous, donc je
incontournable.
Je pense qu'il va y en avoir un. Après, avec le confinement, c'était difficile. On a eu du mal à le préparer en amont. Du coup, il va falloir qu'on se remette très vite. Puis avec l'album, avec la préparation de la release qu'on a faite, etc., ça demandait beaucoup de boulot. Là, c'est bon, on va pouvoir se pencher... complètement dessus, mais du coup, évidemment, oui, je pense qu'il y en aura un. Ça fait partie de notre ADN aussi, au final.
Alors, quels sont les styles qu'on va pouvoir trouver dans l'album, justement, Paper? Quels sont les différents styles qu'on peut retrouver, différentes influences?
Alors, dans celui-là, il y a beaucoup d'influences latines, plus que dans Poupée Russe. Dans Poupée Russe, il y avait pas mal d'influences orientales. Dans celui-là, il y a beaucoup d'influences latines. Il est plus solaire. Il est beaucoup plus solaire que Poupée Russe. C'est un album qui est assez ensoleillé, il y a beaucoup plus de chansons qui dansent. Il y a plus de morceaux aussi. Il y en a 16. Il y a 5 featuring. Qui sont tous faits en fait avec des gens qui ont ou collaboré sur l'album ou qui sont des amis, enfin au final ils sont tous devenus des amis en fait, donc c'est des featuring de famille encore une fois. Et on parle plus d'amour que dans le dernier, on parle de relations en soi, mais on parle aussi voilà du rapport qu'on a nous au fait d'être des femmes dans ce milieu-là, le rapport à la femme. On nous a déjà dit que cet album était sensuel voire sexuel, alors du coup c'était pas fait exprès, mais c'est ce qu'on devait avoir en nous à ce moment-là. On parle de combats comme la mort ou les pensées, enfin le suicide, comme le combat pour toute la communauté LGBT. On parle d'amour, de relations, de partage. On a vraiment eu la parole libre, je crois, sur cet album-là. Voilà.
Est-ce qu'il y a un featuring, un duo ultime dont vous rêveriez toutes les trois, dont vous avez déjà parlé, par exemple, avec un artiste ou un groupe français?
C'est compliqué, ça. Un français, du coup?
Oui, ça peut être français ou anglais, hein, un rêve que vous auriez.
Alors, c'est compliqué parce que nous, on est un peu des bisounours, donc on aimerait bien bosser avec tout le monde, en fait. On adore bosser avec les gens, on adore faire des chansons avec les gens. Le rêve ultime qui est complètement inatteignable, ce serait de faire un featuring avec Daft Punk. Là, je pense que toutes les trois, on foncerait dedans, tête baissée, sans même savoir, quoi. Mais voilà, c'est pas, comme on dit, c'est pas rêve. On sait que c'est absolument pas réalisable, mais voilà, c'est un rêve qu'on a.
Moi, je vous verrais bien faire un duo à 6. En gros, pourquoi pas avec des gens comme Arcadian qui ont des voix qui se mélangent magnifiquement bien comme les vôtres, en fait. Alors, je pense qu'un groupe de 3 filles où les voix se mélangent bien, un groupe de garçons où les voix se mélangent bien, ça devrait bien donner aussi.
C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Bah, du coup, on a fait des duos déjà avec Beaux-Arts Déserts, qui est un groupe de garçons aussi.
Donc, ils sont exceptionnels.
C'est vrai qu'on a déjà bossé avec des voix de garçons, avec du Floyoli, avec Grand Corps Malade. Et c'est vrai qu'Arcadian, vous n'avez pas... Encore
bah voilà, s'il y a quelque chose qui se fait en sang, je saurais que j'ai donné l'idée. Bon, Elisa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là maintenant que l'album est sorti, qu'il appartient au public maintenant depuis 3 jours?
Bah qu'on puisse refaire des scènes bientôt, parce que c'est très difficile de défendre un album sans faire de scène et ça commence à nous manquer très 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 sérieusement. Donc de pouvoir aller défendre cet album sur scène et de le partager en live avec les gens. Et puis que l'histoire, que l'aventure continue aussi, ce serait assez incroyable.
Exactement. Et puis tu embrasses évidemment très fort Lucie et Juliette de notre part. Et puis bah tu vas choisir. Tiens, le titre que tu veux maintenant que l'on passe de l'album Paper, deuxième extrait. On te l'offre maintenant et on l'offre aux auditeurs. C'est parti. Lequel tu as envie?
Non, je vais pas faire compliqué. Je vais vous donner le premier titre de l'album. Voilà, c'est le tout premier. Comme ça, si jamais vous avez envie d'aller l'écouter, vous pourrez sauter le premier titre et aller écouter les autres. Donc il s'appelle C'est pas parce que. Et c'est un titre où on parle de toutes les généralités dont on parle tout le temps, qui sont finalement pas forcément vraies. Voilà, c'est un de mes préférés.
Eh bien, on l'écoute maintenant. Notre album coup de cœur, vous l'avez compris, c'est l'album d'Ali J. Ça s'appelle Pas peur. Merci beaucoup, Elisa.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Oh, C'est pas parce que je ris en public que je pleure pas quand je suis seule. C'est pas parce que je suis love de ma ville que je l'écris sur un t-shirt. C'est pas parce qu'on se gueule dessus qu'on s'aime pas en crever. Pas parce que je fais l'amour tous les soirs que je l'ai trouvé. C'est pas parce que je remplis des salles que quand je range je me sens pas isolée. Pas parce que je te regarde dans les yeux et te dis que je m'excuse, que je suis désolée. Et puis c'est pas parce que je suis sobre qu'en fait tu me saoules pas. C'est pas parce que je suis piquée ou que tu me rends malade que je suis folle de toi.
On s'envoie en l'air tous les mots qu'on perd. On nie l'évidence et on préfère dire le contraire. On s'envoie en l'air tous les mots qu'on perd. On nie l'évidence comme si on pensait à l'envers.
Et c'est pas parce que tu parles fort que t'as forcément raison. Pas parce que je te connais par cœur que j'ai retenu la leçon. Et c'est pas parce que tu me trouves moche que je dois forcément me cacher. C'est pas parce que je crie pas ou que je porte pas un gilet que je suis pas engagée. C'est pas parce que je dors dehors que je ne rêve plus de toi. C'est pas parce que je côtoie des stars que je vois plus d'étoiles. C'est pas parce qu'on est samedi soir que je vais passer une bonne soirée. Pas à chaque fois que j'ai brisé un vase ou un lien fort que j'ai su le réparer.
On s'envoie en l'air tous les mots qu'on perd. On nie l'évidence et on préfère dire le contraire. On s'envoie en l'air tous les mots qu'on perd. On nie l'évidence comme si on pensait à l'envers.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé aussi, bien sûr, pour le documentaire Féminicide qui sera diffusé demain soir sur France 2, demain mardi, après une première déprogrammation. Ça y est, eh bien, nous allons pouvoir enfin suivre ce documentaire qui va s'intéresser à ces féminicides. Un documentaire réalisé par Lorraine de Fouché, journaliste qui est en ligne justement avec nous, qui va nous en parler. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une grande soirée féminicide sur ce sujet qui sera suivie d'un débat. On va en parler évidemment juste après. Mais tout d'abord, quel a été le déclic, Lorraine, qui vous a fait vous intéresser à ce sujet et qui vous a fait eh bien suivre le destin, en quelque sorte un peu funeste, de ces cinq parcours, je dirais presque comme les autres, malheureusement.
Alors, c'est pas forcément un déclic, mais c'est un apprentissage, en fait. Moi, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet en 2017. Et puis, en fait, à force de lecture, de rencontres, notamment avec des spécialistes du sujet, qui commençaient à faire émerger des points de convergence entre tous ces meurtres, que j'ai vraiment vu émerger une forme de système et de récurrence, et de comprendre, en fait, que c'est souvent un petit peu la même chose qui se passe dans le cœur de ces meurtres, quel que soit le milieu social ou l'origine géographique des victimes et des auteurs.
Alors on s'aperçoit quand on regarde votre documentaire que ça peut toucher, on va dire tout le monde, ça peut toucher toutes les familles issues de n'importe quel milieu social, de n'importe quelle région. Il ne faut pas fermer les yeux parce que c'est quelque chose qui peut se produire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.
Bah, en fait, on a toujours eu tendance à penser que, entre guillemets, les gens qui passaient à l'acte, c'était des gens assez loin de nous, c'était des gens qui avaient des problèmes psychiatriques ou des problèmes d'alcoolisation ou voilà. Enfin, et en fait, dans les faits, ça a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ça a beaucoup plus à voir avec notre vision de l'égalité homme-femme, notre vision de l'amour. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très transversal, quel que soit le milieu social ou l'origine géographique, parce que on a tous un peu ces difficultés à ce que l'homme et la femme soient égaux au sein même d'un couple.
Alors quels sont, on va dire, les critères que vous avez relevés qui sont systématiques et qui peuvent aussi alerter les personnes sur un potentiel risque de féminicide? Quelles sont les alertes qu'on peut percevoir peut-être?
Alors déjà, il y a un point majeur qui est le fait que dans un nombre de cas très important, c'est la rupture ou la formulation d'une intention de rupture qui déclenche le meurtre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand une femme est sous contrôle de son compagnon ou de son ancien compagnon, quand elle va chercher justement à reprendre sa liberté, c'est le moment où ça va être le plus dangereux. Donc il faut faire concrètement très attention quand autour de vous, vous avez une proche qui est victime d'une relation toxique. Il faut faire très attention au moment de la rupture, parce que c'est vraiment le moment où c'est le plus à risque de passage à l'acte.
Oui, alors c'est ça qui est assez dramatique, c'est que c'est un schéma quasiment commun, par exemple, aux 5 parcours que vous allez nous montrer dans le documentaire demain.
Oui, moi c'est ça qu'on a. En fait, le documentaire, il est adossé à une grande enquête qui a été menée par une dizaine de journalistes au Monde. Donc c'est vraiment un travail collectif, et on s'est aperçu en travaillant des centaines de dossiers qu'il y avait vraiment des points de convergence importants, et que c'était toujours un petit peu le même mécanisme de contrôle qui se mettait en place, et ensuite les mêmes déclencheurs. Enfin, il y avait vraiment une récurrence qui posait question.
Alors, ce qui est assez dramatique, c'est que les féminicides sont en hausse constante, hein, puisqu'on avait une femme qui décédait sous les coups de son mari tous les 3 jours, encore en 2018, en 2019, c'est quasiment une tous les 2 jours, et le confinement n'a pas dû aider. Les relations, on va dire, dans les couples et dans les foyers avec ce confinement, n'a vraiment pas dû aider à faire baisser les statistiques, là, malheureusement.
Alors, le confinement a plutôt eu un effet entre guillemets bénéfique, dans le sens où le nombre de féminicides a baissé, parce qu'en fait, si l'idée c'est que le féminicide est déclenché par une intention de rupture, avec le confinement, tout le monde a été coincé chez soi. En revanche, un indicateur qui est beaucoup plus inquiétant, c'est le nombre d'interventions de la police sur le terrain pour violence conjugale, qui a augmenté autour de 40 et 50% sur le territoire national. C'est-à-dire qu'énormément de voisins ou de victimes ont appelé la police à cause des violences conjugales qui avaient lieu. Donc ça, c'est un indicateur qui peut être inquiétant.
Les pharmacies ont peut-être eu aussi un rôle pour tempérer un peu ces violences conjugales, puisque pendant ce confinement, eh bien, les personnes victimes pouvaient aussi aller se confier, par exemple, dans les pharmacies pour que ça ne paraisse pas. Donc est-ce que peut-être que cette nouvelle alerte a pu aider aussi à faire baisser le nombre de féminicides pendant le confinement?
Ça, je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas encore eu les chiffres qui sont remontés sur le rôle de ces dispositifs. Ce que je sais, c'est que au moment du confinement, c'est quand même les violences conjugales sont malgré tout restées un sujet très très présent dans l'actualité, parce que tout le monde avait en tête ces femmes qui étaient coincées. Et puis par ailleurs, le confinement a réduit l'horizon de tout le monde, a généré aussi des inquiétudes de économiques, et ça peut avoir aussi des grandes conséquences sur la violence dans les foyers.
Alors le film sera diffusé, donc on le disait, demain soir sur France 2. Il sera suivi d'un débat présenté par Julien Bugier avec quelqu'un qui est à vos côtés pour ce combat, bien sûr, et qui en parle très régulièrement. C'est Marlène Schiappa, qui sera invitée, qui est secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui sera donc en direct pour débattre. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, je sais pas, étant donné les considérations techniques post-virus, je sais pas si elle sera directement en plateau ou en duplex, mais je crois qu'effectivement, il est prévu aussi de la faire réagir, puisqu'elle a porté le sujet au moment du Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes. Et par ailleurs, elle-même s'est exprimée la semaine dernière sur France Inter pour dire qu'elle craignait une remontée justement des chiffres des féminicides suite au déconfinement, et avec une forme de décompensation qui pouvait peut-être avoir lieu.
Alors autour de ce débat, bien sûr, vous y serez présente, Lorraine. Vous serez accompagnée également de Luc Frémiot, un ancien magistrat. On aura Hélène de Poncé, qui est la sœur d'une victime de féminicide, qui viendra témoigner, ainsi que d'Antoine Moulière, le fils d'une victime de féminicide. Ça va être des témoignages. Le but, c'est évidemment de faire avancer, de faire prendre conscience, hein, que ça soit le documentaire ou le débat derrière.
Oui, c'est très complémentaire, c'est-à-dire que le documentaire, l'idée, c'était vraiment de permettre que les gens se rendent compte, en fait, de ce qui se passait concrètement à l'intérieur d'un féminicide, parce qu'on avait toute cette phrase en tête, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, donc c'est une phrase qu'on a presque grandi avec, puisque ça fait depuis 2006 que cette phrase, elle est partout dans les spots télévisés, sur les affiches des campagnes de prévention, mais il nous est apparu au journal Le Monde que les gens avaient encore du mal à se saisir de la pleine réalité d'un féminicide, et donc nous, ça nous est apparu nécessaire de documenter et de voir concrètement qu'est-ce qui se passait, toutes les stratégies de contrôle mises en place par l'auteur, et puis même le passage à l'acte, qui est en général très très violent, et l'idée de c'était d'essayer de penser un film comme une prise de conscience. Alors est-ce que ça va avoir lieu ou pas, je sais pas, mais en tout cas on souhaite profondément.
Alors dans votre film, hein, ce qui m'a frappé aussi, c'est évidemment les familles des victimes qui restent traumatisées par ce qui s'est passé, bien évidemment, et qui témoignent devant vos caméras.
Alors oui, moi je le dis souvent, je remercierai jamais assez le courage de toutes ces personnes qui sont venues raconter ce qui est en général la chose la plus douloureuse de leur vie à des gens qu'ils n'avaient jamais vus. Et moi, cette confiance-là, j'en ai toujours été très touchée, parce que c'est très très dur de parler de ça, qui est plus devant une caméra. Et à chaque fois, les gens se sont accrochés parce que ça leur paraissait nécessaire que leur témoignage puisse servir à d'autres. Donc moi, je les remercie vraiment profondément pour ça, pour ce courage-là.
Eh bien voilà, c'est une soirée à ne pas manquer pour éveiller un peu plus encore les consciences. Hein, c'est important, voilà, d'en parler. Féminicide, ça sera diffusé demain soir à 21h05 sur France 2, suivi donc d'un débat à 22h40 avec de nombreux invités autour de la table pour débattre de ce sujet plus de société encore qu'hier, qu'il est encore aujourd'hui. Malheureusement, Lorraine, merci d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un extrait et je vous dis à très vite.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Parce que c'est l'affaire de tous. Mardi soir, grande soirée sur France 2 pour lutter contre le féminicide.
Le féminicide n'est provoqué ni par l'amour, ni par la folie. C'est un crime de propriété.
Je l'avais dit, je l'avais crié, et c'est arrivé.
Autour de 5 histoires de femmes victimes, les proches témoignent.
C'était sa manière à lui de garder une constante emprise sur elle.
Et décrivent un schéma criminel récurrent.
Plutôt que quelqu'un joue avec son jouet, il a préféré le casser.
L'idée, c'est, attends, tu me fais ça, tu vas voir, moi je te tue, moi.
Féminicide, porté par la voix de Laetitia Casta, un document inédit, mardi soir à 21h05 sur France 2.
Quoi ?
Je suis vraiment désolé de te déranger.
Qu'est-ce que tu veux ?
Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler.
En quel honneur ?
T'as l'air d'avoir besoin de te changer les idées un peu, non ?
Rien de mieux pour se vider la tête.
Pour pouvoir aller vaquer à tes occupations préférées.
Mm-hmm.
De quoi tu parles ?
Eh ben, tu vas trouver quelque chose. Fais marcher ton imagination.
Oh non, tu peux pas me faire ce coup-là. Hein.
Tu m'expliques ? Parce que moi, je comprends pas.
Ah, vas-y, raconte. Ah, non.
Je me lance.
Eh ben oui ! Oh ! T'as plus de temps à perdre !
J'ai 5 minutes ?
Ça va !
3, 2, 1...
Brûle !
Oui, c'est vrai.
T'es sérieux ?
Mais qu'est-ce que tu veux ? Je vais pas te lâcher, Bobby. Je vais pas te lâcher.
Oh, mais censé faire ouh,
waouh. Bon, on va pas s'emballer non plus, hein.
Ah bah si. Non mais si, là, c'est le moment de s'emballer, c'est le moment d'y aller à fond, là.
Bah c'est pas faux, ça, tiens.
Ah, je trouve ça super excitant, en fait.
Bon, on vous attend lundi, alors.
Merci beaucoup.
Rien.
J'ai hâte.
Bon, allez, go !
Allez, go !
Allez, coup de cœur télé au grand retour, et je sais hein, que vous attendez vraiment la série depuis 2 mois et demi qu'elle était supprimée de l'antenne. Eh bien, elle fait son grand retour ce soir à 20h40 sur France 2, c'est Ainsi Grand Soleil. Et puis, eh bien, on nous a laissé en plein suspens avec cette arche autour de la mort de Léa, avec Virgile évidemment qui pète les plombs littéralement. Eh bien, ça tombe bien. Pour fêter ce grand retour et en même temps la reprise du tournage aujourd'hui même d'Ainsi Grand Soleil, eh bien, c'est Fred Bianconi qui est avec nous en ligne. Bonjour Fred.
Eh bien bonjour à tous et à toutes, tellement content de vous entendre et d'imaginer que vous allez bientôt nous retrouver.
Exactement, on vous retrouve ce soir et quel plaisir, surtout dans l'état où on a laissé le personnage de Virgile, c'était juste insoutenable depuis 2 mois et demi.
Eh bien là oui, c'est sûr qu'on a quand même laissé le personnage et d'ailleurs le feuilleton dans une situation de suspense assez intense, parce que donc je suis obligé, évidemment, parce qu'on est le 1er juin, tout ça s'est arrêté le 14 mars, donc je suis obligé de faire quand même appel à ma mémoire pour savoir exactement où on en est, quoi. Mais on a en fait laissé Virgile dans un désir de vengeance, qui s'est donc vengé contre Soriano, qu'il estime responsable. Bon, de là, il se retrouve en garde à vue. Sauf qu'au point où on en est, Soriano, en fait, ne porte pas plainte contre lui, et que donc il se retrouve libéré, ce qui pour lui est une catastrophe intérieure, quoi, puisque il pensait avoir trouvé le coupable, et qu'en fait ce n'est pas le cas. Donc il s'en veut d'être allé aussi loin, parce que aller tirer sur quelqu'un, c'est jamais une solution, et ça, il s'en est rendu compte grâce à Manu. Mais là, de se retrouver finalement seul à ce point-là et sans vengeance assouvie, finalement il se retrouve vraiment face à lui-même, et là la raison de continuer à vivre finalement se pose.
Et il va y avoir de nouveaux éléments en plus qui vont accuser d'autres personnes, dont un couple qu'on va suivre dans les épisodes qui arrivent. Donc ça va remettre en question encore beaucoup de choses. Mais moi j'aimerais faire un petit retour en arrière avec toi Fred quand même. Quand tu as appris fin septembre ce qui allait se passer pour le personnage de Léa, avec qui tu as partagé énormément de scènes, avec Marthe Fieschi qu'on embrasse.
Ouais,
d'ailleurs, j'imagine ça a dû être un choc pour toi et pour Marthe.
Oui, ça a été un, ben, ça a été un choc. Ça a été un choc à double niveau. D'abord un pour Marthe, parce que bon, évidemment, le fait d'arrêter la série d'un coup comme ça et de cette manière-là, c'est, l'annonce est toujours violente. Elle en a compris les raisons et puis elle s'est finalement bien faite à l'idée de tout ça. Il n'y a pas de rancœur là-dessous, en tout cas, ça c'est certain de sa part. Mais enfin, moi, elle vous le dira en direct un jour. Et pour ma part, évidemment, la question s'est posée parce que je me suis dit, oulala, moi quand je l'ai appris, c'est Marthe en fait qui me l'a appris en direct au sortir quasiment de son rendez-vous. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est terrible parce que bon, Virgile, il a plus qu'une seule personne dans sa vie relationnelle et forte, c'est sa fille. Donc si d'un coup elle meurt, qu'est-ce qu'il va faire? Il descend dans sa cave, il prend le flingue qu'il a caché derrière dans son sac avec ses billets, puis il se met une balle. C'est quoi la suite? Donc forcément, ça m'a quand même. Je me suis dit bon, si ça trouve le prochain sur la liste, c'est moi. Et puis en fait, voilà, quoi, en discutant rapidement, je dirais avec les auteurs et la production, c'était au contraire une manière de faire rebondir le personnage vers de faire ressortir en fait une nouvelle facette du personnage. Et je dois vraiment me remercier d'une part les auteurs d'avoir écrit cette arche de cette manière-là, parce que ça m'a donné l'occasion de jouer quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable, quoi. C'est une expérience complètement folle, et aussi à la production de m'avoir fait confiance de pouvoir interpréter ça, parce que pour être tout à fait franc, autant se retrouver dans un téléfilm où on va raconter l'histoire d'un père qui a perdu sa fille, bon ben on va peut-être se retrouver comme ça pendant un moment au moment de la mort, et puis il va y avoir une ellipse, on va se retrouver 5-6 mois plus tard, et puis qu'est-ce que ce type deviendra dans un an. Bon, ça c'était une option d'un téléfilm normal, sauf que là on est dans une série quotidienne, et qui dit quotidienne dit tournage au quotidien et dit deuil au quotidien. Donc il a fallu interpréter ça en essayant de pas tomber dans des poncifs d'émotions un peu classiques. Donc j'ai essayé de construire quelque chose d'un peu différent sur la longueur, parce que c'est 2 mois et demi quand même de tournage avec ce deuil à porter sur les épaules dans chacune des scènes. Donc ça a été extrêmement fort, parce que passer 2 mois et demi avec des sentiments alors variés, hein, d'émotions, de tristesse, de désir de vengeance, de colère, de déprime, enfin bon bref, que des sentiments forts comme ça, d'avoir eu la possibilité de le faire sur une durée aussi longue et à interpréter au quotidien, c'est assez inédit, enfin c'est complètement inédit pour moi, et c'est vraiment une chance. Donc je les remercie mais grandement de m'avoir fait confiance pour ça.
Il faut dire qu'on a souffert avec toi, hein. Tu nous as offert des scènes vraiment qui ont pris vraiment le public aux tripes. Ça a vraiment été très dense. Quand on rentre le soir, on arrive à faire la part des choses, à sortir un peu de ça quand on le joue tous les jours, justement, comme tu le disais, pendant 2 mois et demi.
En fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Bon, moi, je suis pas dans une ambiance d'acteur studio où je me mets dans l'état du mec qui a vraiment perdu sa fille et tout ça, quoi. Je joue les scènes et puis quand ça s'arrête, ça s'arrête. Puis on passe à autre chose, ça empêche pas de dire des
conneries. Heureusement, peut-être, dans une situation comme ça.
Heureusement, je dirais. Mais je me suis quand même rendu compte que au fil des jours et au fil des semaines qui sont passées, bah, finalement, j'avais au fond de moi un fond de marmite qui chaque jour me rappelait que bon, je revêtais mon costume, je rebaissais les épaules, je baissais un peu la tête et je reprenais mon air sombre. Et cette sombritude, elle était à l'intérieur de moi, et je m'en suis pas rendu compte, à tel point que, enfin, et ça m'est vraiment vraiment jamais arrivé, parce que ça m'est jamais arrivé, le jour le dernier jour de tournage, donc qui était un 14 février, le réalisateur Nicolas Capu, avec lequel je tournais à ce moment-là, annonce que c'est la dernière scène, en fait, de cette arche. Ouais, finalement, qu'on va tourner la dernière scène de l'arche Virgile. Et là, mais alors j'ai eu une montée d'émotion avant la scène, et je suis parti m'isoler pendant 1 quart d'heure, 20 minutes. Je n'arrivais plus comme un robinet ouvert. Les larmes sortaient, ça sortait. C'était très très impressionnant. C'est-à-dire que je ne m'y attendais absolument pas. J'étais même pas dans un état de déprime particulier. Au contraire, quoi. J'étais voilà, tout ça était quand même malgré tout joyeux. Mais alors par contre, ça c'est le robinet s'est ouvert et j'ai mis un quart d'heure 20 minutes à me remettre pour pouvoir tourner cette dernière séquence, quoi, en fait.
Oui, du coup, ça sera une fin d'arche qu'on verra aller aux alentours du 15 juillet à peu près. Donc, on n'a pas fini de souffrir avec toi encore.
Entre le 7 et le 15 juillet, quoi, par là, ouais.
Bon, Fred, ouais, t'as eu des nouvelles de Marthe quand même depuis ?
Alors, j'ai eu des nouvelles de Marthe pendant le confinement. Ça se passait bien.
Bon, reprise du tournage, je pense que c'est une libération pour beaucoup de monde, parce que c'est vrai que cette reprise de tournage, tout le monde l'attendait beaucoup. Une suspension sur un tournage d'une série quotidienne, ça implique évidemment un arrêt de la diffusion. Donc là, on est tous très très heureux de vous retrouver ce soir à 20h40 sur France 2. Mais Fred, j'imagine que pendant ce confinement et pendant l'arrêt de la diffusion, tu as dû voir sur les réseaux sociaux, par exemple, que les fans de la série étaient fidèles et attendaient avec impatience. T'as dû recevoir plein de messages, mine de rien, pendant la diffusion déjà du premier mois de l'Arche.
Bien sûr, on a reçu tous des messages avec malheureusement pas la possibilité de répondre « bah oui, on reprend à tel moment » parce qu'en fait, on n'en savait rien, comme des tas de choses pendant ce confinement et autour de ce virus. On a eu tellement de questions, tellement d'incompréhensions qui sont encore là, quoi. Le nombre de questions, le nombre de phrases qui ont pu démarrer les discussions, qui je comprends pas pourquoi. Alors voilà, ça c'est vraiment le démarrage classique de discussion de la période confinée. Donc on se demandait pourquoi des tas de choses, en fait. Mais donc oui. Là, ben, pourquoi la série recommençait pas. Là, bon ben voilà, on est dans une crise sanitaire et Thomas de Mattei a fait un boulot de dingue pour réunir toute son équipe et vraiment, mais je salue sa force et son énergie pour pouvoir remettre ce bateau à l'eau. Franchement, chapeau, quoi.
Bah en tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes bon courage. La semaine prochaine, dans Chut, on écoute la télé, ça sera Emma Colberti qui sera notre invitée pour continuer à parler évidemment de cette arche et de ce personnage qui est d'un soutien sans faille pour Virgile finalement, même dans ses côtés les plus sombres.
Elle va être d'un grand secours, d'un grand soutien pour lui, si toutefois il veut bien de son soutien, ce qui n'est pas évident.
Et ça n'a pas l'air très très bien barré cette histoire. On en parle avec elle, avec Emma, qui sera notre invitée lundi prochain. Merci à toi, Fred.
Eh ben, merci à tous de votre fidélité et puis merci à toi aussi de m'avoir accordé un peu de temps pour parler de tout ça.
Bah c'est toi, merci à toi de nous avoir accordé du temps alors que le tournage reprend juste ce matin. Et puis n'oubliez pas que le retour d'un si grand soleil, eh bien c'est ce soir à 20h40 sur France 2. Et pour fêter ça, allez, un petit coup de bande-annonce, rien que pour le plaisir. Merci à toi, Fred.
À ce soir.
Précédemment dans Un si grand soleil. Nous y sommes, Un si grand soleil est enfin de retour. Mais on ne va pas se mentir, un petit récap est essentiel pour resituer nos héros montpelliérains préférés et être calés pour la reprise le lundi 1er juin. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Nous ne sommes pas prêts d'oublier le traumatisme de la mort de Léa.
Je n'arrive pas à croire que je la ferai plus jamais.
Nous non plus, Antonin. Elle laisse derrière elle un grand vide, mais aussi une question, pour l'instant sans réponse.
Parce que je veux savoir ce qui s'est passé dans ce putain d'escape game.
Pour ça, on peut évidemment compter sur notre duo de choc, Alex et Manu. Enfin, ça patauge un peu quand même. On fait le point sur l'enquête. Suspect numéro 1, Christophe. Ah bah, Christophe, il nous avait bien caché son jeu. Mais depuis qu'il a appris pour Ludo et Johanna, disons qu'il est en roue libre. Ou comme Johanna l'affirme...
Il n'y a plus aucune limite.
D'ailleurs, c'est Johanna qui vient faire part de ses doutes à Manu. Rappelons qu'elle a perdu son bébé à cause de l'incendie et si ça nous a tous dévastés pour Christophe...
Il y a une justice. T'as perdu ton bébé. Ça, quelque part, ça me réconforte un peu.
Un brin suspect, non ? Mais un élément fait soudainement basculer l'enquête. La chaudière de l'escape game était défectueuse. Une pièce de contrefaçon aurait pu provoquer l'incendie. Ce qui nous amène à notre deuxième suspect, Gérald Soriano.
J'aurais risqué la vie de mes clients pour me faire 200 balles ?
Alors, toi, non. Mais ton fils, oui. Mais pour Virgile, ça ne fait qu'un tour, et...
Faites pas ça.
Alors qu'en fait, les Soriano n'y étaient pour rien. L'incendie était criminel.
Voilà, et on va se retrouver dans un instant pour la sortie VOD et DVD du film Les Éblouis. Ça va être un petit best-of pour ce lundi de Pentecôte dans Chut, on écoute la télé avec la venue de Sarah Soko. C'était pour la sortie du film, alors ne bougez pas, on revient dans un instant, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
Moi, j'écoute Radio Écho des Choucas et c'est trop sympa.
1, 2, 3, 4. La, 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 la. La, 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 la.
Whatever happened to predictability? Man, the paper boy, the evening TV. How did I get delivered here? Somebody tell me, please. 'Cause this old world is just really confusing me. Clouds as mean as you've ever seen. Ain't a bird that knows your tune. Then a little voice inside of you whispers, kid, don't sell your dreams so soon. Go away. Now I'm feeling a little crazy trying to fit in with the scene. 'Cause how do you know where you're going if you really don't know who you've been? Everybody eventually says that they're as lost as you. So everybody shout it together. Hey, don't sell your dreams so soon.
Vous êtes sur Radio Écho des Choucas, 103.7. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, dernière partie de Chute, on écoute la télé, de retour, spécial Les Éblouis. Le film sort en VOD et DVD. Nous avions reçu sa réalisatrice Sarah Souko lors de sa sortie en salle. Je vous propose tout de suite de réécouter un extrait de sa venue.
Revivre le meilleur de Chute, on écoute la télé, c'est tout de suite dans Chute, on écoute la télé, le best-of.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré aux Éblouis, le film de Sarah Souko, qui est avec nous. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est très heureux de te retrouver, Sarah. On t'a vu pour des téléfilms, on t'a vu évidemment pour Discount. C'est un peu la muse de Louis-Julien Petit, je sais que tu joues beaucoup pour lui. Et là, première réalisation et un film, sans faire de jeu de mots, éblouissant, avec toute cette famille qui se trouve embrigadée un peu dans une secte catholique. Et cette lumière, interprétée par Céleste Brunkel, qui essaie de sortir contre vents et marées cette famille de là. C'est vraiment une première réalisation et une première histoire que tu as trouvée. Comment le sujet? Comment ça t'est venu?
C'est d'après une histoire personnelle. J'ai grandi dans cette communauté pendant plus de 10 ans. Et je sentais très vite, quand j'ai grandi, après, qu'il y avait une matière cinématographique énorme dans cette histoire, parce que je trouve que c'est un sujet très fort qui est rare, on ne connaît pas, les gens ne savent pas ce que c'est la secte. On imagine des choses, on pense au temple solaire, on pense à la scientologie, mais en fait, il existe en France des tas de communautés et de dérives sectaires dans ces groupes, dans ces groupuscules. Et ce que j'aimais à travers cette histoire, c'était raconter le conflit de loyauté d'une jeune fille face à ses parents. Qu'est-ce que ça fait quand on est adolescent et qu'on essaie de grandir, de voir ses parents devenir fous, devenir embrigadés, perdre leur libre arbitre, presque redevenir comme des enfants. Et je trouve qu'il y avait vraiment une matière à raconter un film, à raconter une histoire romanesque, et qu'on allait être embarqué quoi par ces enfants et leur insolence, leur luminosité, leur force. Oui, c'est complètement d'origine autobiographique. Après, j'ai vraiment eu à cœur d'en faire une fiction et de me détacher de cette histoire-là aussi pour raconter un film. Quand je dis romanesque, c'est que je voulais avoir la possibilité de traiter le plus de choses possible, tout en restant voilà une distance qui était la mienne. C'était très important pour moi de garder une forme de pudeur, une forme de retenue. J'avais pas envie de faire un film d'horreur. Donc voilà, quand on réalise, on fait des choix. Et j'avais vraiment à cœur qu'on s'attache au personnage des parents, parce que je pense que tout le monde peut rentrer dans ce genre de groupe. Et quand on sait pas, et là on voit que très simplement, ce sont des gens qui sont un peu fatigués par la vie. Ils sont à la quarantaine, 4 enfants. La femme, elle a pas tellement de travail, mais en même temps, il n'y a pas de misère. Et c'est tout un tissu comme ça de conjonctions qui font qu'ils se retrouvent attirés par ce groupe qui est plein de bonnes valeurs, qui prône la charité, la solidarité. On est dans un monde de plus en plus dur, de plus en plus individualiste. Et tout à coup, ils trouvent comme ça un tas de gens qui les accueillent, qui sont chouettes. Et voilà, et la dérive et le basculement, j'avais vraiment envie de le montrer au travers des yeux de cette adolescente, parce que c'est pour moi aussi une manière de dire comment est-ce qu'on juge nos propres parents, même nous en tant qu'adultes. C'est très dur de condamner ses propres parents, c'est dur de se dire ils déconnent là, qu'est-ce qui se passe.
Et puis de rester, quand on est embrigadé un peu comme ça, de rester les yeux ouverts. Parce que voilà, dans cette histoire, évidemment, le personnage que joue Céleste, Camille, est la seule à garder les yeux ouverts.
Son petit frère aussi, son petit frère Mathieu, joue par Armand Rayom. Oui, c'est vrai, c'est une adolescente, et je pense que les adolescents sont très forts, beaucoup plus intelligents et perspicaces que parfois on veut nous le faire croire, et je pense que c'est par eux que l'avenir sera sauvé, la planète. Elle est en plein combat, elle est en pleine recherche, c'est un parallèle avec un... C'est ça l'adolescence, grandir, c'est se positionner. Donc effectivement, là, c'est dans un cadre extraordinaire, puisqu'elle voit ses parents qui passent complètement de l'autre côté.
On va en parler avec elle, hein, dans quelques instants d'ailleurs, on va l'accueillir. Je voulais vraiment mettre le personnage de Camille à l'honneur dans cette émission, c'est important. Comment tu l'as trouvé justement, Céleste? Comment t'as trouvé tout ton casting?
Cette pépite, grâce à une directrice de casting enfant qui s'appelle Elsa Pharaon. Et on avait reçu plus de 1000 candidatures. Et elle est arrivée en casting la première fois et elle nous a éblouis, si on peut le dire. Après, on a fait un long casting, ça a duré des mois, parce qu'il fallait vraiment éprouver comme ça toutes les capacités. Vous avez vu, le personnage est tellement complexe. Et très vite, on s'est dit, mais elle est dingue, cette fille, elle est dingue. Céleste Brunkel, elle a quelque chose où elle se donne entièrement à la caméra et en même temps, elle retient, elle est dans une pudeur, elle est dans une élégance tout le temps. Et puis, elle est magnétique, je crois que la caméra l'aime. Elle a un regard tellement fort et elle s'est retrouvée... à porter sur ses épaules un premier rôle et je trouve qu'elle habite et elle nous emmène comme ça dans son combat en permanence quoi.
Maman ? Je m'inquiète pour maman.
Bah tu pries pour elle, Saint-Esprit l'aide à guérir.
T'y crois toi ?
Ça se passe bien dans ton couvent ?
Je connais rien à ma vie, alors ferme-la.
Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines.
Pauvre fille.
Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eue votre fille, ça me préoccupe.
On va prier sur elle.
Jésus, fais que les parents ne rentrent plus jamais.
Et Mathieu a ne plus puer du cul.
Tu vois pas dans quel état ils te mettent ?
Tu arrêtes maintenant !
Laisse-moi, toi !
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ce sera une spéciale romance, la nouvelle série de France 2 qui va démarrer avec Hervé Annemar et Pierre Deladonchamp qui seront nos invités exceptionnels. Emma Colberti viendra également nous reparler d'Un si grand soleil et de sa reprise. Et puis nous allons parler du nouveau livre également de Fabienne Carra. Bref, plein de surprises qui vous attendent.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain midi et quart et 17h10 sur Radio Écho des Choucas pour les quotidiennes et pour la grande hebdo, et bien retour lundi prochain dès 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique, dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Jardre-Chauvigny, votre spécialiste culture en pays chauvinois.